France Musique. France Musique, musicienne de légende, Marina Chiche.
Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour notre grande série d'été sur France Musique autour des musiciennes de légende. Après nous être intéressés à de grandes violoncellistes, à de grandes pianistes et clavecinistes, aujourd'hui, c'est la voix. Mais pas n'importe quelle voix. La plus grave des voix féminines, celle de contralto. Si on parle de prima donna pour les sopranos, que dire des contraltos ? Avec une voix entre masculin et féminin, ces chanteuses évoluent aux frontières du genre et touchent une corde sensible chez leurs auditeurs. Des voix qui bouleversent et qui incarnent la voix de l'autre. Au XXe siècle, ce sont aussi des personnalités fascinantes et des parcours particulièrement inspirants. Que ce soit l'américaine Marian Anderson ou la britannique Kathleen Ferrier, des femmes d'une grande simplicité rayonnante, des anti-divas qui parlent au peuple et sont attachées à leurs racines. Commençons par Marian Anderson, la première femme noire à chanter au Metropolitan Opera de New York en 1955. Sur France Musique, nous écoutions la contralto Marian Anderson dans le Negro Spiritual « My Lord, What a Morning ». Marian Anderson naît en 1897 dans une famille pauvre de Philadelphie. Elle commence à chanter à 6 ans dans le chœur de l'église que fréquente sa famille, l'Union Baptist Church. À 12 ans, lorsque son père décède brutalement, Marian doit donner des concerts pour subvenir aux besoins du foyer. Sa communauté religieuse la soutient aussi pour ses études. Mais lorsqu'elle postule à l'Académie de musique de Philadelphie, on lui refuse l'accès. « Nous ne prenons pas les gens de couleur », lui assène-t-on. Finalement, elle se tourne vers Giuseppe Boghetti, un professeur d'opéra de la région de Philadelphie, qui n'a pas peur de prendre une étudiante afro-américaine sous son aile. En 1925, elle remporte à 28 ans un concours du New York Philharmonic qui lui permet de chanter en solo au stade Lewisohn devant une foule de plus de 7000 personnes. Malgré ce tremplin prometteur, la carrière de Marian Anderson n'est pas vraiment lancée. La chanteuse décide alors de tenter sa chance en Europe. Elle part à Londres, puis à Berlin, où elle étudie l'allemand de manière intensive, ainsi que le répertoire de musique germanique, en particulier les Lieder de Schubert.
Geliebten so munter und schnell. Ach, trautes Bächlein, mein Bote bist du. Bringe die Grüße des Fernen ihr zu. All ihre Blumen im Garten gepflegt, die sie so lieblich an Rosen trägt, und ihre Rosen in purpurnen Blut.
Sur France Musique, le Lied Liebesbotschaft de Franz Schubert avec la contralto Marian Anderson, accompagnée du pianiste Franz Rupp. Dans les années 30, Marian Anderson perce aussi en Scandinavie. Elle y suscite auprès du public une Marian Mania, mélange de curiosité et d'admiration. Elle chante pour les têtes couronnées de Suède et du Danemark et rend visite au compositeur Jean Sibelius, tellement admiratif et surpris qu'il somme sa femme d'apporter du champagne à la place du café. À la même époque, Marian Anderson effectue un passage en Russie. Le légendaire metteur en scène Stanislavski veut en faire sa Carmen. Marian bénéficie alors d'une solide réputation en Europe et c'est après avoir assisté à l'un de ses concerts à Paris que le célèbre manager Sol Herrock devient son agent. Les portes semblent enfin s'ouvrir.
Thank you.
Gestillte Sehnsucht, Nostalgie apaisée, un extrait des Zwei Gesänge de Johannes Brahms sur un poème de Friedrich Rückert, avec la contralto Marianne Anderson, l'altiste William Primrose et le pianiste Franz Rupp. De retour d'Europe, Marianne Anderson doit encore surmonter des obstacles incroyables aux États-Unis, où la question raciale est à cette époque brûlante. Malgré sa renommée mondiale, elle est obligée de voyager dans des wagons séparés et de se produire devant un public exclusivement blanc. De nombreuses portes d'hôtels lui restent fermées pendant ses tournées en raison de sa couleur de peau. Mais tout bascule en 1939, quand on lui refuse de donner un récital à Washington. Au départ, son manager Sol Herrock avait souhaité réserver pour elle le Constitution Hall, une salle de concert construite par une association patriote, les Daughters of the American Revolution, les filles de la Révolution américaine. Seulement, dans cette Amérique d'avant-guerre, régie par les lois Jim Crow, la ségrégation bat encore son plein. Après plusieurs tentatives esquivées, arrive une réponse sans équivoque. « No Negro artist here », pas d'artiste noir ici. L'affaire est ébruitée dans les médias, des pétitions sont lancées, et là, c'est un coup de tonnerre. Eleanor Roosevelt, épouse du président, mise au courant de la situation, démissionne des Daughters of American Revolution en signe de protestation et forme un comité pour trouver un nouveau lieu pour le récital de la chanteuse. Ce sera rien moins que le Lincoln Memorial à Washington. L'image est historique. Sous un soleil radieux, le dimanche de Pâques 1939, Marianne Anderson descend les marches du monument emblématique. Une foule de 75 000 personnes, blancs et noirs mélangés, l'attend fébrile. Les dignitaires sont au premier rang. Le secrétaire d'État à l'intérieur, Harold Ickes, qui ouvre le concert par un discours, indique « Le génie ne dessine aucune ligne de couleur ». Puis tous accueillent l'artiste de manière triomphale. Avant de se mettre à chanter, Marianne Anderson ferme les yeux, se concentre, debout devant une demi-douzaine de microphones, enveloppée dans un long manteau de vison. La statue d'Abraham Lincoln semble veiller sur elle par-dessus son épaule. Elle porte alors son regard au loin, profondément émue, entonne un air patriotique, puis un air de Donizetti et enfin des Negro Spirituals.
Nobody knows.
sur France Musique, le Negro Spiritual, Nobody Knows the Trouble I've Seen, par la contralto Marian Anderson. Ce concert de 25 minutes, donné sur les marches du Lincoln Memorial à Washington en 1939, est considéré comme l'un des moments déterminants du mouvement américain des droits civiques. Dans ses mémoires, Oh Lord, What a Morning, la contralto raconte comment elle a dû faire face à la ségrégation et comment elle a brisé progressivement les barrières, exigeant que les Noirs soient admis au balcon, puis refusant par contrat de se produire dans des salles ségrégationnistes. Il faudra néanmoins attendre 1955 pour qu'elle fasse ses débuts à 58 ans au Metropolitan Opera de New York dans un second rôle du bal masqué de Verdi sous la direction de Dimitri Mitropoulos. Cette année-là, elle entre définitivement dans la légende en devenant la première afro-américaine à se produire sur cette scène mythique et en ouvrant la voie à Leontine Price, à Grace Bunbury ou à Jessie Norman. D'ailleurs, lorsque cette dernière se verra confier l'interprétation de la Marseillaise lors du bicentenaire de la Révolution française en 1989, elle se souviendra de son idole Marian Anderson, dont elle écoutait depuis l'enfance la version de la Rhapsodie pour alto de Johannes Brahms.
Yeah.
Sur France Musique, nous écoutions la Rhapsodie pour alto, chœur d'hommes et orchestre de Johannes Brahms dans la version de la contralto Marian Anderson avec le chœur d'hommes et l'orchestre de San Francisco dirigé par Pierre Monteux. Marian Anderson deviendra une vraie ambassadrice. À plusieurs reprises, elle chante lors d'événements devenus historiques, comme lors de l'investiture de deux présidents, Eisenhower et John Fitzgerald Kennedy, ou durant la marche sur Washington de 1963, pendant laquelle Martin Luther King prononce son discours mémorable « I have a dream ». Tout au long de sa carrière, elle insistera pour être connue pour sa voix, même si, comme elle le disait elle-même, « j'étais devenue, que cela me plaise ou non, représentante de mon peuple ». Sur France Musique, nous écoutions le Negro Spiritual Deep River par Marian Anderson, la grande chanteuse américaine qui vécut jusqu'à 96 ans. La première à franchir la barrière de couleur, elle reste dans l'histoire comme une voix inoubliable à l'image de sa personnalité, digne, sans rancœur, touchée par la grâce, donnant malgré elle une leçon de tolérance à l'Amérique entière.
France Musique, musicienne de légende, Marina Shish.
Une autre grande contralto qui toucha les cœurs et chanta le chant de son peuple, c'est la Britannique Kathleen Ferrier, notre deuxième musicienne de légende du jour.
Give me a boat that will
Wally Wally, un chant traditionnel britannique par la contralto Kathleen Ferrier, accompagnée au piano par Phyllis Spur. Le chemin de Kathleen Ferrier avec le chant était loin d'être tracé. Née en 1912 en Angleterre, Kathleen Ferrier grandit dans un milieu modeste de province. Son père, directeur d'école, et sa mère qui chante en amateur. Elle commence le piano assez jeune, mais des difficultés financières familiales l'obligent à quitter l'école à 14 ans. Pour entrer comme télégraphiste au General Post Office. Écoutons-la nous raconter son enfance au micro d'un journaliste autrichien.
I left school when I was 14 to go and work in the post office, and there I was a telephone operator. But in my spare time, I was playing the piano a lot as a solo pianist.
J'ai quitté l'école quand j'avais 14 ans pour aller travailler à la poste où j'étais réceptionniste. Dans mon temps libre, je jouais du piano en solo ou en accompagnant des chanteurs. À cette époque, j'avais l'habitude d'aller aux concours organisés par des festivals. Parfois, je remportais le concours de piano, parfois non. Une fois, on paria un shilling que je n'oserais pas participer au concours de chant. Ce fut trop pour moi. Alors je le fis. Et Kathleen remporta le concours. Elle prend alors quelques cours de chant, puis c'est lorsque son mari est mobilisé au front en 1940 que les choses deviennent sérieuses. Elle donne de nombreux concerts dans des usines pendant la guerre, et par chance, le chef Malcolm Sargent l'entend chanter et la recommande aussitôt à une agence londonienne. Les choses sont lancées.
And then I did my first opera in 1946, and it was by Benjamin Britten.
Puis je fis mon premier opéra en 1946, le deuxième opéra de Britten nommé The Rape of Lucretia, le viol de Lucrèce, dans lequel je jouais le rôle de Lucrèce. Puis en 1947, au festival de Glyndebourne, je fis Orphée de Gluck. Puis la même année, au premier festival d'Edinburgh, je fis Le Chant de la Terre sous la baguette de Bruno Walter. Et l'année suivante, en 1948, je chantais à son invitation au Carnegie Hall de New York, à nouveau Le Chant de la Terre. On me dit qu'il y avait 20 millions de personnes qui écoutaient à la radio. Ce fut terrifiant.
Thank you.
Sur France Musique, nous écoutions Von der Schönheit, de la beauté, un extrait du Chant de la Terre de Gustav Mahler, dans la version de Kathleen Ferrier avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Bruno Walter. Pour Kathleen Ferrier, la rencontre avec le grand chef Bruno Walter, spécialiste de la musique de Mahler, dont il avait été l'ami intime dans sa jeunesse à Vienne, fut décisive. Dès 1948, la carrière de Kathleen Ferrier n'est plus seulement européenne, mais mondiale. C'est aussi le point de départ d'une grande amitié entre le chef et la chanteuse.
It was in London. I think it was in 47 or 48. I conducted the first Edinburgh Festival, the festival in Scotland, and I wanted to do the Lied von der Erde of Mahler.
C'était à Londres en 1947 ou 48. Je dirigeais le premier festival d'Edinburgh. Je voulais faire le chant de la terre de Mahler. Mais j'avais dit que je ne le ferais que si je pouvais trouver une chanteuse qui serait capable de se hisser à la hauteur des exigences de l'œuvre. Et on me dit qu'il y avait une jeune chanteuse anglaise qui avait fait forte impression. Est-ce que je serais prêt à l'écouter ? Elle vint et commença à chanter « Saphische Ode » de Brahms. Je lui dis aussitôt, vous êtes engagé. Parce que c'était d'une telle beauté, beauté d'expression, beauté de voix, pureté, beauté de personnalité. Une des plus grandes impressions de ma vie. Depuis, nous sommes devenus de très bons amis. On a fait cette œuvre plusieurs fois et je l'ai engagée à New York à nouveau pour le Chant de la Terre. C'est la seule que j'ai accompagnée au piano.
Thank you. nicht fassen, nicht glauben, es hat wie traumig sprügt, wie hätte noch unter allen mich arm erhöht und vergnügt. Mir war's herabgesprochen, ich bin auf ewig dein. Mir war's, ich träume noch immer, es kann ja nimmer so sein.
Des extraits du cycle de Lieder, Frauenliebe und Leben, l'amour et la vie d'une femme, de Robert Schumann, avec la contralto Kathleen Ferrier et au piano le chef Bruno Walter, lors d'un récital au Festival d'Edinburgh en 1949. La même année, Kathleen Ferrier retrouve Bruno Walter à la direction cette fois pour un enregistrement de légende du cycle de Mahler, les Kindertotenlieder, les chants des enfants morts, une œuvre qu'elle a chantée dans le monde entier avec lui. Les Kinder Totenlieder, chant des enfants morts de Gustav Mahler, par la contralto Kathleen Ferrier, avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Bruno Walter, un enregistrement de légende. À ce moment de sa carrière, tout semble se dérouler au mieux pour Kathleen Ferrier. En à peine 8 ans, elle est parvenue au sommet, au prix d'un travail acharné sur sa voix, une ascension fulgurante pour Lucky Kath, comme elle se surnomme, Cathy la chanceuse. Pourtant, la mort rôde, encryptée dans son sein. Voilà déjà un moment qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle ressent une curieuse douleur qui irradie parfois dans le bras, puis disparaît. Les dernières années, elle a fait à plusieurs reprises des examens complets qui pourtant n'ont rien révélé. Mais quand elle se découvre une masse au sein en mars 1951, cela ne laisse aucun doute, c'est un cancer. Après une mastectomie, elle suit une radiothérapie avec courage, mais refuse d'envisager tout traitement qui pourrait compromettre sa voix, car elle veut continuer sa carrière coûte que coûte. Elle alterne alors période d'hospitalisation et période de convalescence. En mai 1952, Elle enregistre, dans des souffrances extrêmes, le chant de la terre et les Rückert-Lieder de malheur. Terriblement affaiblie, certains leaders lui demandent des efforts insoupçonnables à l'écoute de cette version exceptionnelle. Si elle a accepté d'enregistrer, c'est parce que c'est Bruno Walter qui dirige ce répertoire mahlérien qu'ils ont joué ensemble dans le monde entier. Des œuvres signatures qui lui collent à la peau, notamment le mouvement final du chant de la terre, Der Abschied, l'adieu, et le dernier lied des Rückert, Ich bin der Welt abhanden gekommen, je me suis retiré du monde, qui résonne de manière funeste.
Thank you.
Ich bin der Welt abhanden gekommen. Je me suis retiré du monde. Un des Rückert-Lieder de Gustav Mahler dans la version légendaire de Kathleen Ferrier avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne dirigé par Bruno Walter, un enregistrement de 1952. Kathleen Ferrier s'éteint le 8 octobre 1953 à l'âge de 41 ans, provoquant la consternation de tous. Bruno Walter, brisé par cette perte prématurée, dira « La plus belle chose qui me soit arrivée en musique, c'est d'avoir connu Kathleen Ferrier et Gustav Mahler, dans cet ordre. » Kathleen Ferrier était adorée de tous, une reine des chœurs en Grande-Bretagne, où elle avait remis au goût du jour, avec sa voix bouleversante, des chants populaires comme « Blow the Wind, Southerly ».
South o'er the bonny blue sea. Blow the wind southerly, southerly, southerly. Blow, bonny breeze, my lover to me. They told me last night there were ships in the offing, and I hurried down to the deep rolling sea. But my eye could not see it, wherever might be it, the bark that is bearing my lover to me. Southerly, 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 blow, bonny breeze o'er the bonny blue sea. Blow the wind southerly, 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 blow, bonny breeze, and bring him to me. Is it not sweet to hear the breeze singing as lightly it comes o'er the deep rolling sea? But sweeter and dearer by far 'tis when bringing the bark of my true love safety to me.
C'est avec le chant traditionnel britannique Blow the Wind Southerly par Kathleen Ferrier que nous refermons cet épisode. Merci à toute l'équipe, Jean-Claude Mullet, Florian Hainaut et Maxime de Peretti. Vous pouvez réécouter cet épisode ainsi que tous les épisodes de la série sur le site de France Musique ou en podcast sur l'appli Radio France. Dans le prochain et dernier numéro de cette série, ce seront de grandes musiciennes qui s'imposent dans le monde de la guitare, de la trompette ou encore dans le bastion masculin qu'est l'orchestre au XXe siècle. La guerre des sexes aura bien lieu. On se dit à dimanche prochain, 16h.
À réécouter sur francemusique.fr.